Beurre FM, les mots piégés du débat républicain, Pierre-Henri.
Bonjour. Les mots qui fâchent, les mots du vocabulaire politique, souvent mal connus, employés de manière inappropriée, instrumentalisés, ils se répètent et se buzzent en réseau, confortant posture et parti pris. Ils font débat et nous divisent. Ce sont les mots piégés du débat républicain. Eh bien, ces mots, nous allons les déminer, les expliquer ou simplement vous permettre de mieux les connaître. Les mots piégés du débat républicain, une émission qui débusque les faux-semblants, c'est sur Beurre FM. Après être revenu sur l'origine du mot et sa balade dans l'actualité, je reçois un invité qui nous aide à y voir encore plus clair. Aujourd'hui, c'est le mot « racisme » qui est sur la sellette. « Je ne suis pas raciste, mais tout est dans ce « mais ». Inutile alors d'en dire plus. Les restrictions sous-entendues, un certain nombre de Français les connaissent. Et beaucoup trop d'entre eux les partagent. Ils sont pas racistes. Non, mais quand même, ces gens-là, comme ils disent, ne sont pas comme nous. Un racisme de souche, mais pas seulement, d'autant plus terrifiant qu'il est très ordinaire, nourri d'ignorance et de préjugés. Personne ne s'accorde sur l'origine du mot « race ». Mais le terme semble provenir du latin « generatio », signifiant « lignage »,« génération ». Devenu « generacé » en français, puis « race » vers 1500, le mot désigne alors la subdivision d'une espèce à caractère héréditaire représentée par un certain nombre d'individus. Parfait pour la noblesse française qui utilise le mot race jusqu'au XVIIe siècle pour se différencier, bien entendu, des roturiers. On parle alors officiellement de noblesse de race. C'est véritablement au XVIIIe siècle que le racialisme, le fait de différencier les humains en races, se développe. Les naturalistes qui classaient alors les animaux et des plantes en espèces ou en races commence à en faire de même avec les hommes. Ils les catégorisent selon leur aspect physique. Ce racisme catégorisé se transforme rapidement en racisme hiérarchisé. C'est la justification de l'asservissement et de l'esclavage. Au début du XXe, ce racisme hiérarchisé fut institutionnalisé avec l'Allemagne nazie qui plaça la race aryenne au top de l'humanité, avec la ségrégation visant les Noirs américains ou encore avec l'apartheid sud-africain. Heureusement, le XXe siècle fut aussi celui des luttes vers une égalité entre les hommes. Ainsi, l'ONU se prononça contre la discrimination raciale dès 1963. L'UNESCO déclarait, elle, en 1950, que l'espèce humaine était unie et que la race était moins un phénomène biologique qu'un mythe social. Du préjugé au racisme, le pas est souvent vite franchi, comme prétendre que les Noirs, par exemple, auraient le rythme dans la peau et que les Asiatiques seraient extrêmement disciplinés. Réduire les populations à leur origine et leur apparence physique, c'est du racisme. En France, le racisme est défini par la loi depuis 1972 comme une provocation à la discrimination, à la haine, à la violence en raison de l'origine ou de l'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Ainsi, le racisme est une infraction pénale punie d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende, qu'on se le dise. Et ce mot, nous allons en débattre aujourd'hui avec Madame Safia Haït Ouarabi. Madame Ouarabi est une étudiante de 20 ans en sciences politiques à l'international à l'Université Paris-Est de Créteil. Elle est également l'actuelle vice-présidente de l'association SOS Racisme. Bonjour Safia Haït Ouarabi.
Bonjour.
Alors, merci de cet entretien. Une des formes de racisme les plus visibles ces derniers mois a été le racisme anti-asiatique exacerbé par la pandémie de Covid. SOS Racisme semble bien démuni, comme beaucoup d'autres, pour lutter contre ces préjugés. Mais au-delà, selon vous, pourquoi certains stéréotypes se maintiennent et se propagent encore aujourd'hui ?
Effectivement, sur la question des préjugés anti-asiatiques qui ont réémergé durant la pandémie de Covid-19, eh bien, on avait une logique qui est assez historique et assez traditionnelle concernant les dynamiques de racisme, qu'est le bouc émissaire. C'est-à-dire que pendant une pandémie, eh bien voilà, on va chercher à mettre la faute sur un groupe d'individus. Eh bien là, c'était les personnes asiatiques. Eh bien nous, le plus compliqué à SOS Racisme, c'était surtout de faire face à la vague de haine sur les réseaux sociaux, puisque il y a eu une dizaine de messages extrêmement violents à l'égard de la communauté asiatique. Alors les auteurs ont été appréhendés, mais le problème, c'est qu'il reste toujours une zone de flou, puisque ça a fait l'objet de centaines de likes, et qu'en fait, les personnes qui approuvent ce genre de message, elles ne peuvent pas être appréhendées par la justice ou quelque autre forme de sanction.
Malgré tout, on voit bien que les stéréotypes se maintiennent et se propagent. Donc, quelle est votre analyse sur la raison de la propagation de ces stéréotypes ?
D'une part, la propagation des stéréotypes, elle est extrêmement historique. Elle est véhiculée par des biais dans la société. Ça va être, ça va démarrer dès l'école, ça va démarrer dans la famille, ça va démarrer à travers des blagues, de l'humour, mais aussi les médias. Les stéréotypes, ils sont historiques, ils vont avoir avec l'histoire, celle de l'esclavage ou de la colonisation, et puis ils vont voilà un peu trouver plein de manières dans la société de se répandre. Maintenant, à SOS Racisme, le meilleur moyen de lutter contre, c'est effectivement de prévenir, en faisant notamment la déconstruction de préjugés racistes et antisémites dans les milieux scolaires et les milieux de jeunesse.
Justement, ces jeunes, comment peut-on expliquer aujourd'hui l'adhésion d'une partie de la jeunesse aux thèses de l'extrême droite et aux idées racistes qu'elle défend ?
Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez inquiétant, puisque de plus en plus, on entend parler de ces groupes de jeunes. Tant par là, Génération Z, donc ce groupe de jeunes qui soutient la candidature d'Éric Zemmour au présidentiel. J'entends par là aussi le groupe Génération Identitaire avant qu'il soit dissolu. Génération Identitaire, ce groupe a été connu pour leurs actions nauséabondes dans les Alpes en vue de stopper les migrants ou quelconque migration. Et bien ces groupes, effectivement, sont pour beaucoup composés de jeunes. Mais c'est des fractions extrêmement minimes et qui surtout, et ça il est important de le rappeler, ont toujours existé. Il y a toujours de toute façon une partie de la jeunesse qui a été attirée par la radicalité, le nationalisme, la xénophobie. Ça n'a rien de surprenant, si ce n'est que l'espoir qu'on peut avoir, c'est qu'en réalité, une grande, grande majorité, écrasante majorité de la jeunesse, elle, est à contre-courant de ces idées-là.
Oui, il a été maintes fois question de supprimer le mot « race » de la Constitution. Par exemple, Robert Badinter s'y était opposé, jugeant que la race n'existe pas, mais que le racisme existe. Alors, supprimer le mot « race » des discours est-il nécessaire et efficace, selon vous ?
Alors, sur la question du mot « race », il y a plusieurs choses. Effectivement, c'est vrai que c'est alors ce débat sur la race dans la Constitution est un débat qui est en réalité très parlementaire. Les associations antiracistes, les mouvements antiracistes s'en sont pas tellement emparés parce que c'est un débat qui reste très institutionnel et très parlementaire, si ce n'est qu'effectivement, en tout cas à SOS Racisme, on insiste sur une chose qui est que effectivement la position antiraciste, elle a un fil rouge conducteur qui est le combat du concept de race. Alors maintenant, peut-être, moi j'ai des jeunes qui se questionnent, mais alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on utilise le mot racisme ? Eh bien parce qu'il est important de nommer un phénomène qui est idéologique, parce qu'en fait, oui, des personnes vont avoir des comportements racistes, vont discriminer, vont avoir l'idéologie de la race, de la hiérarchie entre les gens. Pour autant, nommer le phénomène ne veut pas dire adhérer à ce concept, au contraire, c'est le combattre.
Très bien. Vous êtes vice-présidente de l'association donc SOS Racisme, qui est née il y a presque 40 ans. Et comme vous le savez, dans une certaine mémoire collective, SOS Racisme est considéré comme ayant participé de l'affaiblissement de la lutte pour la dignité et l'égalité, en référence notamment à la marche des beurs de 1983. Qu'est-ce que vous répondez, vous, qui avez 20 ans aujourd'hui ?
Merci de poser cette question parce que elle est importante. Alors c'est vrai que aujourd'hui entre jeunes, en tout cas pour les gens qui militent ou pas SOS Racisme, entre jeunes, c'est des conversations qu'on va pas tellement avoir parce que c'est un épisode qui fait pas tellement partie de notre génération. Mais c'est vrai que j'ai déjà eu des interrogations de la part de personnes qui étaient plus âgées que moi, qui venaient me voir parfois de manière très agressive pour me parler, voilà, de manipulation. Du fait que SOS Racisme aurait volé la marge des beurs. Moi, en tout cas, ce que j'aurais à dire, c'est que je suis extrêmement fière d'être SOS Racisme dans une association qui me permet d'être militante. Et là, je vais m'expliquer, c'est que quand on a 20 ans, et je vous l'assure, on a espoir et on pense et on sait que l'antiracisme va gagner. Simplement, on sait que les victoires, elles vont pas forcément arriver de manière rapide et immédiate. Alors parfois, pour garder espoir quand on est militant, il est important de regarder un peu en arrière et de voir les victoires qui ont été qu'on a pu acquérir. Et je sais que SOS Racisme a pu acquérir des victoires, qui fait que la situation de mes grands-parents ou de mes parents en France n'est pas la même que la mienne, qui fait que la situation de mes enfants, encore heureux, ne sera pas la même que la mienne. Et puis concernant cette histoire sur la marche pour l'égalité, eh bien moi par exemple, cette année on a perdu un grand militant à SOS Racisme qui s'appelle Nasser Hamdan Ferraj, qui était un ami, un proche de Toumi. L'un des initiateurs et des grandes figures de cette marche pour l'égalité, Toumi, j'ai eu l'occasion d'écouter un message de sa part qui était extrêmement beau, extrêmement fort, qui parlait de Nasser comme un frère d'armes. Alors moi, je pense que quand on est réellement antiraciste, on évite d'avoir des discours complotistes à l'égard de SOS Racisme, et il faut bien avoir en tête que...
Oui, c'est pas du complotisme, ça fait partie de l'histoire de ce mouvement.
Alors non, parce qu'en fait, dire que SOS Racisme a volé ou étouffé la marche pour l'égalité, il y a d'autres discours qui tournent autour de ça. Dire que, par exemple, il y a ce que j'ai beaucoup entendu, notamment, on a pu me le dire de manière assez violente, que les Juifs et SOS Racisme auraient étouffé cette marche pour l'égalité pour étouffer la voix des concitoyens noirs et arabes. Non, ces discours, en réalité, ils sont très graves. Et le dire aujourd'hui à des gens qui ont 20 ans comme pour les dégoûter de l'antiracisme et pour les dégoûter de leur engagement, je vous assure, c'est extrêmement grave. Alors moi, tout ce que j'aurais à dire, c'est qu'en fait, quand on a des initiateurs pour la marche pour l'égalité qui parlent de certains militants de SOS Racisme comme des frères d'armes, eh bien je pense que ça veut tout dire et qu'aujourd'hui, ces débats n'ont plus lieu d'être.
Eh bien, merci Safia Haït Ouarabi et à bientôt.
Merci beaucoup.
C'était les mots piégés du débat républicain en partenariat avec France Fraternité.